Ils se sont associés autour du projet Prototypes pour prévenir des dangers de la consommation du protoxyde d'azote. Le docteur Guichard, responsable du CJ dans le milieu pénitentiaire, et Isabelle Châtelain, chargée de mission au sein de l'association Hauts-de-France Addiction. Dans ce reportage, nous allons parler des risques de l'addiction, mais également de l'importance de la prévention chez les plus jeunes. Dans un premier temps, je vais me tourner d'abord vers vous. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du protoxyde d'azote? Qu'est-ce que c'est en fait et quels sont les effets chez les personnes?
Alors, le protoxyde d'azote, c'est un produit qui est connu depuis très longtemps, hein, qui est un produit qui est réputé pour faire rire, ça s'est utilisé déjà dans les foires au 19e siècle. Mais c'est aussi un produit qu'on utilise mélangé à l'oxygène pour faire de l'anesthésie, anesthésie locale. Donc ça permet de vraiment pouvoir... c'est un produit qui est très intéressant. Sauf qu'il y a un mésusage, et le mésusage fait que on veut l'utiliser pour rigoler, on s'amuse bien, on rigole, mais ça ne dure pas longtemps l'effet. Du coup, on en reprend. Alors c'est comme toutes les addictions, hein, c'est juste un produit. Mais ce produit, si on l'utilise de façon modérée, ça pose peut-être pas trop de problèmes. De façon abusive ou de façon addictive, là on va avoir des quantités qui sont phénoménales, avec de gros problèmes neurologiques qui vont arriver, avec d'abord des fourmis dans les mains, dans les pieds, puis des paralysies qui vont être potentiellement définitives si on ne traite pas rapidement. Ça peut donner des accidents vasculaires cérébraux, des embolies pulmonaires, des phlébites. Donc c'est un produit qui a beaucoup de dangers.
Et donc tout à l'heure, on parlait d'éducation aux plus jeunes, justement. Est-ce que c'est dans les idées aussi d'aller dans les écoles, les collèges, peut-être plus les collèges, pour parler de ce sujet et être un peu prévoyant sur ça?
Effectivement, c'est des choses qu'il faut continuer à évoluer. Là, j'ai travaillé sur une formation au niveau du service sanitaire, au niveau de la faculté, pour former des étudiants qui vont aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour faire de la prévention. Donc on essaye de trouver les relais, les rouages qui vont permettre de diffuser au maximum. Alors il y a plein de gens qui font déjà des choses, hein. On ne sait pas tout ce qui se fait déjà, mais si on peut apporter des outils supplémentaires, c'est un plus.
Et tout à l'heure, vous me parliez aussi de la formation des addictologues qui n'était pas forcément au point.
C'est que les addictologues, ils vont s'occuper des gens qui viennent les voir. Tout ce qui est alcool, tout ce qui est héroïne, cocaïne, ils viennent en exap. Un patient sous protoxyde d'azote qui a une dépendance au protoxyde d'azote, il ne va pas forcément voir un addictologue. Parce qu'en fait, il y a aussi des troubles cognitifs et on est sur une population qui n'est pas tellement dans le soin non plus. Donc, pour prendre un exemple, j'ai vu un patient il n'y a pas très longtemps qui sait qu'il a des problèmes de proto, il sait qu'il faut prendre de la B12, mais en gros, il sait vaguement des informations, mais pas tout. Et il me dit, ça fait 3 ans que je ne peux plus bouger mes orteils, mais il n'a pas vu un addictologue pour autant. Et là, j'en ai vu un aussi il n'y a pas très longtemps qui est sorti de... qui avait déjà été hospitalisé en neuro, qui est passé à l'espoir, en rééducation, et qui est revenu en prison et qui reconsomme. Et il me dit, j'ai très peur d'être paralysé. Et là, il y a une prise de conscience que je dois avoir un addictologue. Mais c'est très rare, c'est la notion d'aller voir un addictologue, c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait repenser la prise en charge. Peut-être plus une prise en charge collective, faire des groupes, plutôt que l'individuel ou... On les garde pas, on n'arrive pas à les garder en addicto. Et du coup, l'addiction, tant qu'elle est là...
C'est quoi un peu la tranche d'âge?
Alors, moi, je ne connais pas toutes les tranches d'âge parce que je travaille qu'avec des majeurs. Mais on est sur des jeunes majeurs en détention. Mais ça touche beaucoup de mineurs. Là, en détention, on a à peu près un jeune de moins de 25 ans sur deux qui a déjà consommé du proto. Alors, consommer, c'est pas forcément dépendant. Mais un sur deux qui a déjà consommé. C'est quand même pas négligeable.
Alors, ce projet est loin d'être fini dans sa communication, tout ça, mais est-ce que vous avez d'autres projets dans les ateliers que vous faites? Est-ce que vous comptez vous réassocier pour d'autres choses?
Il y a eu ils ont réalisé aussi un film sur les addictions. Donc, Shérif était... l'interviewait différents détenus sur leur consommation et est revenu beaucoup en premier lieu, c'est la consommation de cannabis. La consommation de cannabis que beaucoup de gens banalisent, Et beaucoup des détenus qui étaient là, qui sont consommateurs depuis très longtemps, disaient que pour eux, le cannabis, c'était une drogue dure. Alors, il n'y a pas de notion de drogue dure, drogue douce, ça n'existe pas. Mais pour bien préciser que pour eux, c'est pas anodin, ils ont vraiment envie de travailler sur le cannabis. Après, c'est un projet qu'on va essayer de bidouiller, c'est en 2026-2025, là. On va voir comment ça va progresser. Mais ça peut être très intéressant de travailler sur le cannabis. De toute façon, on est toujours cannabis, proto.
Nous, l'association Hauts-de-France Addiction, notre base étant le tabac, les produits fumés, le but en faisant de la prévention et de la sensibilisation, et on fait aussi de la formation, donc on va toucher un public assez large. Donc oui, si on peut travailler en secteur pénitentiaire où on sait que bah, ce n'est pas toujours forcément évident, nous on est très preneurs puisque autour des produits qui créent de la dépendance, ce public-là est particulièrement marqué. Donc, et l'idée, c'est de les faire avancer dans leur pratique, donc ou en termes de réduction des risques ou en termes d'arrêt, que les professionnels aient peut-être plus d'informations qui soient à leur, entre guillemets, à leur portée, c'est-à-dire qui soient pratico-pratiques aussi. L'idée, nous, on est toujours preneurs aussi d'une possibilité de travailler ensemble et de travailler pour amener le meilleur entre guillemets. Après, par exemple, sur le protoxyde d'azote, on sait que les premières consommations, on a des premiers expérimentateurs dès l'âge de 13 ans. Et après, le gros de la cohorte monte jusqu'à 25 ans. Après, il y a très peu de chiffres pour des gens un peu plus âgés, mais bon, donc c'est sûr que Jean-Claude, lui, va voir les majeurs parce qu'ils sont incarcérés. Nous, l'idée, c'était de pouvoir, et la sensibilisation, la prévention, elle est en amont des consommations, donc sur des publics un peu jeunes. En tout cas, l'information descendante, c'est totalement terminé. Et puis, nous aussi, au sein de l'association, ça ne nous intéresse pas de travailler comme ça. Ce sur quoi on aime bien amener le terrain sur lequel on aime bien amener les gens, c'est sur cette notion d'idées reçues. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on a des représentations aussi bien par rapport à la dépendance que l'addiction, et que donc les produits, il y a des rumeurs qui circulent, qui parfois sont fausses et erronées. Donc c'est de pouvoir remettre les choses au point, mais en douceur et par aussi l'information, ce qu'on appelle entre les pairs, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont pratiqué ou qui ont un vécu et qui vont l'expliquer à d'autres personnes qui, elles, n'ont pas encore été dans le produit, que les choses vont mieux se marquer dans les esprits et donc feront avancer les manières de faire. Donc c'est vrai qu'on cherche toujours un moyen un peu rigolo, éventuellement un peu provocateur, mais pour faire en sorte que justement ils en ressortent en se disant, bon, bah là, c'était pas chiant et en plus bah on sait maintenant qu'il y a ceci ou tu sais qu'il y a ceci ou il y a cela et voilà, on se dit que là on aura avancé.
Dépendante du CHU de Lille, l'association Protozyd relaye également des informations concernant le protoxyde d'azote, que ce soit pour les professionnels de santé ou pour les consommateurs.
Protozyd, c'est vraiment une association qui a été créée au CHU. Après, la biologie a été confrontée à ce problème d'éléments de dépistage qui ont flambé sur le CHU, donc ils se sont posé des questions, pourquoi ça arrive. Et du coup, ça a fédéré les choses en disant, il faut que tout le monde soit formé, parce que c'est important de pouvoir former les soignants de façon à pouvoir faire du dépistage, parce qu'il y a tout un dépistage biologique qui peut se faire, mais dépistage qui est sur les consommations et qui ne permet pas de dire, on va soigner, puis on va s'arrêter là. L'idée, c'est après quand même qu'il y ait le suivi d'addicto. Donc là, cette association est née à Lille parce que la biologie, ils sont très, très, très impliqués avec les neurologues de Lille et que la problématique aux urgences neuro, c'est vraiment, sur Lille, était très importante. Et on a une région un peu phare, malheureusement, là-dessus. Et l'idée, c'est de former un peu les soignants et qu'il y ait des zones vraiment très, dans toutes les régions de France, où il y ait on puisse je cherche le mot essaimer un petit peu cette façon de travailler.
Rééduquer.
Il y a tout un travail national qui se met en place et aussi international, du coup, parce qu'il y a des choses qui se passent aussi en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. Donc, le fait d'avoir une formation scientifique là-dessus est vraiment importante. Et donc, un des volets du protosite, c'est aussi travailler sur la prévention. Donc, là, on peut avoir des outils de prévention, tout ça, mais c'est aussi du soin et comment, du dépistage. Travailler sur un meilleur dépistage et voilà, c'est une globalité qui fait que ça avance bien là-dessus. L'addiction, c'est la rencontre d'un produit, certes, mais d'une personnalité, d'une difficulté personnelle et d'un moment socioculturel. Donc là, c'est l'exemple type, hein. Donc la personne avec sa difficulté, son histoire, sa fragilité. Le moment socioculturel, mais c'est l'époque qui veut qu'on, dans ces quartiers ou ailleurs, on va consommer ce produit. Et voilà, c'est vraiment l'addiction, on s'en fout du produit quelque part. L'addiction, c'est une problématique addictive et ça se traite d'une certaine façon. Il y a des traitements psychologiques qui marchent bien, sauf que ça passe par la psychothérapie, plutôt courte bien sûr, hein, les méthodes plutôt courtes, on ne va pas faire une psychanalyse là-dessus. Mais voilà, il faudrait pouvoir amener ces personnes à du soin. Pas du soin seulement médical, parce que le médical, on sait très bien gérer. On sait très bien gérer les problèmes de vitamines et d'autres, mais à partir du moment où on consomme toujours, on ne résout pas le problème. Donc il faut vraiment pouvoir aider les personnes à gérer leur consommation. On est dans la réduction des risques, donc soit diminuer les consommations, ou voire éventuellement les arrêter. Mais voilà, essayer d'avoir qu'ils aient une vision globale et qu'ils puissent gérer ces consommations.
Retrouvez tous ces projets sur le site Hauts-de-France Addiction au travers des différentes rubriques proposées. Un reportage réalisé par Chloé Lagnès pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.